La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, mercredi, troisième moment de notre série consacrée à l'écrivain et photographe Hervé Guibert. À l'âge de 34 ans, quand il commence à écrire son livre « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie », Hervé Guibert a déjà publié 13 livres. Reconnu jusque-là par un public restreint de lecteurs, il va atteindre la grande notoriété au travers de ce récit autofictionnel qui raconte certes le sida, mais qui est surtout la poursuite d'une œuvre où cet écrivain déplie sa propre vie sous l'œil du lecteur dont il a fait un voyeur. Une vie que nous a détaillée son biographe Frédéric Andreau dans l'émission de lundi dernier. Elle est à retrouver en podcast. Hier, nous nous sommes donc arrêtés sur la forme autofictionnelle du travail d'Hervé Guibert grâce à Bruno Blankmann, avec qui nous avons également cherché à caractériser le style de cet auteur. Et puis demain, nous serons avec des écrivains lecteurs dans une émission chorale. Il y aura Mathieu Simonet, Bénédicte Heim, Éric Marty ou encore Brigitte Ollier. Et aujourd'hui ?
Les pieds sont des oreilles, les bras sont des pieds, la tête c'est le derrière c'est la tête, les yeux sont des doigts, les doigts sont des...
Aujourd'hui, pour parler d'Hervé Guibert, photographe, nous sommes avec Arnaud Genon, spécialiste de l'écrivain et qui a fait paraître avec Jean-Pierre Boulet l'ouvrage « Hervé Guibert, l'écriture photographique ou le miroir de soi » aux presses universitaires de Lyon, c'était en 2015. Et puis nous parlerons également de l'esthétique postmoderne en germe dans le travail d'Hervé Guibert, puisque Arnaud Genon a publié un essai sur ce thème aux éditions de l'Harmattan en 2007. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
J'ai jamais eu l'impression de faire de la photo. J'ai fait vraiment de la photo comme un amateur. Bon, il y a un photographe que j'adore, c'est Lartigue, parce qu'il a fait toujours des photos, vous savez, comme ça, avec une simplicité, une gaieté, une joie de l'instant, d'un mouvement, d'une lumière et tout ça.
Extrait d'un entretien avec Patrick Poivre d'Arvor dans l'émission Ex Libris en 1991. Bonjour Arnaud Genon.
Bonjour.
Alors à quel point Hervé Guibert, l'écrivain, était-il donc aussi un photographe ? C'est la première question, la plus évidente que j'aimerais vous poser.
La plus évidente et peut-être aussi la plus complexe parce que, comme on vient de l'entendre, cela ne va pas de soi. Hervé Guibert se défiait lui-même d'être un photographe. Il se définissait comme un amateur. Il prétendait ne pas maîtriser la technique photographique. Et il disait qu'il la pratiquait donc en vacances, hein, comme peut le faire un touriste en quelque sorte.
Ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'on a l'impression qu'il y a des photos qui ne sont pas du tout des photos de vacances.
Oui, tout à fait, celles qu'il prenait notamment chez lui, hein, puisque son appartement a été le décor de plusieurs photographies, que ce soit des autoportraits ou des photos d'objets. Cependant, c'est ce qu'il déclarait. Et donc il a été difficile de le considérer comme un photographe alors que lui-même se défiait et se présentait davantage comme un écrivain que comme un photographe. Ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs le premier livre qui a été publié après sa mort, donc de photographie, s'appelle Hervé Guibert Photographie. Mmh. Et celui qui a été publié en 2011, suite donc à la rétrospective qui a eu lieu à la Maison européenne de la photographie, s'intitule Hervé Guibert, photographe. Donc dans le premier cas, on a l'impression que finalement Hervé Guibert était un écrivain qui avait pris des photographies, dont la photographie était un petit peu une lubie en quelque sorte, une forme d'amateurisme. Et il a peut-être fallu attendre beaucoup plus longtemps pour qu'il soit considéré après sa mort comme le photographe que lui-même refusait d'être.
Il y a un peu une gradation dans la reconnaissance d'Hervé Guibert. D'abord, il a fallu 10 ans pour reconnaître Hervé Guibert comme étant un grand écrivain, et puis il a fallu encore 10 autres années pour reconnaître Hervé Guibert comme étant photographe, et c'est en effet cette exposition à la MEB dont vous parlez qui a consacré d'une certaine façon cet aspect-là de son travail.
Tout à fait, et en plus cette exposition qui a eu lieu en 2011, qui a finalement correspondu avec la commémoration du 20e anniversaire de sa mort. Donc on a commémoré en quelque sorte Hervé Guibert avec ses photographies plus qu'avec ses œuvres littéraires, ce qui est un paradoxe quand on sait que lui-même, je pense, avait conscience d'être un très grand écrivain, alors que peut-être avait-il beaucoup plus de doutes sur ses photographies. Et ce qui est intéressant, c'est que les livres, qui est le livre de photographie qu'il a publié de son vivant, qui s'appelle « Le seul visage », qui est le catalogue de l'exposition qui avait été fait après la deuxième exposition qu'il fait donc à la galerie Agathe Gaillard, après une exposition qui avait eu lieu à la remise du parc. Donc il est présenté comme un roman, c'est-à-dire sur la quatrième de couverture de ce petit livre, qui n'a absolument pas d'ailleurs le format d'un livre de photos, hein, puisque c'est un livre qui est publié aux éditions de Minuit, qui a le format d'un livre des éditions de Minuit, donc un petit format, qui est un livre tout fin, qui n'est absolument pas présenté d'un point de vue éditorial comme un livre d'art. Sur la quatrième de couverture, on peut lire, je cite de mémoire, mais un livre avec des figures et des lieux, n'est-ce pas un roman ? C'est-à-dire qu'il appelle lui-même à regarder son livre de photos comme un roman, c'est-à-dire comme un texte littéraire.
Comme si, et vous le dites un peu d'ailleurs dans l'introduction au livre Hervé Guibert, l'écriture photographique ou le miroir de soi, comme si l'attraction pour la photo qu'il ressentait lui faisait peur d'une certaine manière et qu'il ne voulait pas s'y donner complètement.
Oui, tout à fait. Il dit qu'il se défiait justement d'être un photographe parce qu'il avait peur de sombrer dans une sorte de folie, dans la mesure où il disait...
Tous les photographes ne sont pas fous, tout de même, loin de là.
Non, mais en tout cas, c'est ce que lui pensait, il disait, parce que tout est photographiable. Et il avait peur justement de sombrer dans une sorte de folie scopique, en quelque sorte, qui l'aurait amené à vouloir englober finalement tout ce qui l'entourait et à transformer cette passion finalement en une sorte de folie scopique, du désir de voir...
Et du désir de prendre aussi.
Oui.
De conserver, d'attraper.
Tout à fait, même si dans son cas, il n'y a pas de rapt. Hein, c'est-à-dire que la photographie, elle est considérée pour Hervé Guibert comme une relation à l'autre. C'est pas une capture, c'est pas un rapt. C'est vraiment un échange. Et d'ailleurs, elles ne sont que l'indice justement de ce qui s'est passé avec les personnes qu'il photographie dans un échange, dans une relation souvent de désir, d'amour, dans une relation ou dans un instant qui relève de l'épiphanie, qu'il cherche à saisir, mais qu'il ne souhaite pas non plus conserver. Il dit que la photographie est oublieuse, alors que l'écriture est mélancolique. Et finalement, la photographie englobe quelque chose, alors que l'écriture permet un mouvement que la photographie, justement, ne permet pas.
Alors, cet unique livre de photos paru de son vivant, le seul visage, pourquoi s'appelle-t-il comme ça, Arnaud Genon ? Qu'est-ce que c'est que ce seul visage ?
C'est le titre d'une photo qui se trouve dans ce petit catalogue. Hervé Guibert est allé... Alors, je ne sais plus dans quel pays assister à une exposition, et il est dans une salle en train d'écouter une personne qui fait une conférence. Et alors que toutes les personnes qui sont devant lui sont de dos, il voit apparaître comme ça entre plusieurs personnes un visage. Et à ce moment-là, donc, il trouve premièrement cette image esthétiquement belle, et il se met à désirer en quelque sorte ce visage. Et comme Hervé Guibert photographiait avec un tout petit appareil, hein, un Rolet 35, dont il dit absolument, enfin, ne pas maîtriser la technique, donc il pouvait transporter partout puisqu'il tenait dans sa poche, donc il prend cet appareil, il fait cette photographie qui est en quelque sorte à l'image de ces photographies qui sont des photographies de désir, un moment, une situation, une personne, et il va capturer, saisir comme ça ce visage qui est le seul qui s'offre à lui dans la situation qu'il est en train de vivre.
Mais alors, est-ce que ce sont aussi des photographies de désir quand il se prend lui-même en photo, parce qu'il y a beaucoup d'autoportraits chez Hervé Guibert ?
Oui, alors désir de lui-même, peut-être pas. Donc c'est vrai qu'on a souvent dit, on a souvent fait des écrivains qui font de l'autofiction, des écrivains narcissiques. Il y a probablement une part de narcissisme, mais Hervé Guibert, quand il parle des autoportraits, il dit que c'est peut-être par amour de soi, c'est aussi peut-être par désespoir de soi ou par lucidité de soi.
Peut-être la même chose, hein, d'une certaine façon.
Peut-être aussi, oui, mais il y a dans l'idée de narcissisme quand même une sorte de complaisance à laquelle Hervé Guibert a toujours échappé. Mmh. Quand on connaît ses livres, quand on connaît ses photographies, c'est vrai que dans l'idée de narcissisme tel qu'on le conçoit et tel qu'on l'entend aujourd'hui, il y a voilà, l'idée un peu complaisante de quelqu'un qui se regarderait, qui aimerait se regarder. Or, c'est pas du tout ce que fait Hervé Guibert. Il n'est pas tendre avec lui-même.
Et puis même au-delà de ça, il se prend comme point central de son récit, mais c'est pas pour ça qu'il ne parle que de lui. En réalité, il parle tout le temps de ce qu'il voit, et il parle tout le temps du monde, et il parle tout le temps des autres.
Bien sûr. Il est en quelque sorte le premier personnage de son œuvre, qu'elle soit photographique, qu'elle soit littéraire. Il s'est pris lui-même comme personnage. Il s'est pris lui-même... C'est aussi une manière d'explorer l'autre qu'il est, c'est-à-dire que les autoportraits d'Hervé Guibert sont toujours des autoportraits qui jouent sur la transparence, le miroir, sur des images doubles, en quelque sorte, de lui-même. Il y a aussi ce qu'on pourrait appeler des autoportraits en absence, c'est-à-dire, il dit d'ailleurs qu'on pourrait pousser très loin l'idée d'autoportrait, de considérer que toute image est un autoportrait. Le photographe, dit-il, fut-il hors champ. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un photographe désire saisir un sujet, il est là. Mmh. Il est dans la scène, on ne le voit pas, mais il est quand même celui qui enclenche et qui appuie sur le bouton.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors, à quoi ressemblent-elles ces photos de Hervé Guibert? On peut peut-être commencer, Arnaud Genon, en évoquant les sujets qu'il choisit. On a dit qu'il y avait un certain nombre d'autoportraits, mais il y a aussi des portraits. Il y a beaucoup de présence humaine dans ces photographies.
Oui, comme dans ses livres, il a décidé de photographier son monde, hein, et a commencé par ses proches. Les personnes qu'il a aimées, donc on peut citer bien sûr Thierry, hein, qui a été probablement le plus grand amour de sa vie, à qui il dédie le mausolée des amants.
Qu'on voit photographié dans son bain.
Tout à fait. Il a photographié les personnes qu'il a rencontrées, qu'il a aimées. Donc on peut citer Christine Guibert, Agathe Gaillard, donc Thierry, ses parents. Même si toutes les photos n'ont pas été réussies, hein, puisque...
Il y a la fameuse image fantôme, vous allez nous en parler, je pense.
Il a photographié les artistes qu'il a rencontrés. Je pense à une photo de Peter Handke. Il a photographié les personnes qui appartenaient effectivement au cercle étroit de ses amis.
Et il y a aussi des photos qui ne sont pas des photos... humaines, dans lesquelles on voit beaucoup de flou, beaucoup de fumée, beaucoup de brouillard, beaucoup aussi de bouger. Est-ce que ça, c'est une caractéristique de sa photographie?
Oui, tout à fait. Il jouait beaucoup avec la lumière. Hein. D'ailleurs, on pourrait dire que la lumière est un personnage finalement de sa photographie, comme André Kertész, qu'il aimait beaucoup, et de qui il disait qu'il était un photographe de la lumière. Donc il joue avec la lumière, il joue avec les ombres, avec effectivement le brouillard, parce que cela permet aussi de créer une sorte de décalage par rapport à la réalité. C'est-à-dire que les photographies de Guibert qui sont en même temps, ou qui pourraient paraître comme des photographies biographiques ou autobiographiques, cherche toujours une distance par rapport au sujet qui est saisi. C'est-à-dire qu'on retrouve dans sa pratique photographique ce qui existe déjà dans sa pratique littéraire, à savoir, partant de soi, il y a toujours un possible fictionnel. Et d'ailleurs, les images qu'il aime, ce sont celles qui laissent beaucoup de place au texte, en quelque sorte. Ce sont celles qui offrent à celui qui les regarde tout un champ de possibles littéraires et que le spectateur va pouvoir investir.
Donc ce sont aussi des photos qui doivent raconter ou impulser des histoires ?
Oui, je pense, oui, que d'ailleurs la photo n'a d'intérêt que dans ce qu'elle permet de raconter. Il admirait le travail du photographe Duane Michaels, hein, qui avait fait des séquences narratives, justement, à partir de photographies. Donc, il avait réussi à narrativiser la photographie, qui n'est pas, a priori, un art narratif. Hervé Guibert, lui, justement, dans sa manière de saisir les personnages, de saisir les lieux, joue sur les potentiels, justement, fictionnels de ces images, qui ne doivent pas s'arrêter à leur simple lecture référentielle et indicielle.
Alors, l'image fantôme, venons-y, il faut expliquer le titre de ce livre par cette image qui n'a jamais pu être réellement réalisée. On l'a déjà un petit peu raconté lundi, mais je crois qu'il faut le redire dans une émission sur la photo. Image prise de sa mère dans leur appartement. Racontez-nous, Arnaud Genon.
Donc, avec Guibert, en 1973, est à La Rochelle. Ses parents vont déménager et il décide donc de photographier sa mère à l'abri du regard de son père. Donc c'est en quelque sorte aussi une scène oedipienne, hein, c'est-à-dire qu'il cherche à éloigner le plus possible la présence du père pour pouvoir saisir sa mère dans ce qu'elle a de plus naturel, c'est-à-dire lui enlever son masque, lui enlever la défaire de sa coiffure qu'elle portait habituellement, essayer de la rendre à elle-même en quelque sorte en dehors du regard du mari. Et donc il monte comme ça toute une scénographie, hein, où il la pare d'un drap, il lui lave les cheveux, il la met dans une situation afin de lui faire retrouver finalement le visage de celle qu'elle est véritablement. Il va par ailleurs lui mettre dans une deuxième séquence un chapeau de paille en référence donc à Tadzio, donc le personnage de Visconti. Et il se trouve qu'il va faire plusieurs photographies et que à l'issue de cette séance, il se rend compte, alors qu'il est en train de développer le film avec son père, que la pellicule a été mal enclenchée et que donc la photo n'a pas été prise. Et il dit, c'est une image fantôme, cette image n'existera pas. Et il écrit un texte sur cette image en disant que finalement le texte est le désespoir de l'image.
Et on l'écoute en parler à Gérard-Julien Salvi en 1981.
Pourquoi n'y a-t-il pas de photographie dans ce livre ?
Ben, j'ai hésité, mais finalement j'ai préféré mettre ce que j'ai appelé des fantasmes de photographie, c'est-à-dire des espèces de photographie virtuelle, enfin, que je rêverais de réaliser, mais qui sont certainement beaucoup trop compliquées à réaliser et qui demanderaient une organisation un peu accablante, enfin, qui me rebute. Donc je préfère les rêver et puis essayer de les traduire sur papier, quoi, de les écrire.
Oui, mais il y a des photographies qui existent que vous aimez. Vous citez un certain nombre, oui, de photographies, même très précisément, oui, une photographie par photographe pour quelques-uns, oui, de ceux que vous aimez.
Parce que j'ai pas voulu les montrer, parce que d'abord, enfin, c'est assez rare, enfin, que je parle d'une photographie qui existe. D'abord, je suis amené à la décrire, donc je voulais pas que ça fasse un peu, que ça se doublonne. Puis je voulais pas m'accaparer ces images, surtout ces images qui appartiennent à d'autres gens et qui font partie d'un travail étranger au mien, en fait. Même si je les prends en compte, même si je les aime, même si elles m'attirent.
Comment ça, étranger au vôtre?
Je savais pas si tel photographe, disons, je sais pas, Henri Cartier-Bresson, ou j'ai même pas pensé à lui demander, mais je sais pas s'il aurait été content de se retrouver dans ce livre qui est malgré tout pas, enfin, pas forcément un livre sur la photographie au sens où on l'entend.
Accompagné des auteurs sur France Culture. Je vous voyais sourire en écoutant cet extrait d'interview, Arnaud Genon.
Oui, parce que sa dernière phrase est assez intéressante par rapport à ce que nous disions tout à l'heure, à savoir que l'image fantôme, qui est un texte hanté par la photographie, Rigibert le définit comme un livre qui n'est finalement pas sur la photographie au sens où on l'entend habituellement. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un texte sur des images fantômes, finalement. Ce n'est pas un texte sur les photographies. Quand il fait référence à un texte ici qui s'appelle « Mes photos préférées », il parle des photos qu'il aimerait collectionner, qu'il aimerait acheter. Donc il parle de photos de Diane Arbus, de Cartier-Bresson, etc. Et il préfère ne pas les montrer parce que ce qui l'intéresse dans ces photos, ce n'est pas tant de pouvoir les voir que de parler de leur potentiel, justement, fantasmatique. C'est le rapport qu'il entretient, lui, en tant que sujet, en tant que regardeur, face à ces photographies qui lui disent quelque chose à lui. Et le discours qu'il tient sur la photographie est un discours subjectif. C'est j'ai envie de dire, une lecture romanesque. Et parmi ses photos préférées, il parle d'une qui est, je pense, les collégiens d'Eton. Mm. Et il dit que ce qui l'intéresse dans cette photographie, c'est de se faire en quelque sorte un cinéma avec chacun des garçons qui y est représenté, et de les imaginer comme des personnages de fiction.
Mmh. Donc, trois garçons habillés, comme on peut l'imaginer, comme des Miller, qui se trouvent attroupés comme ça à Eton.
Et donc quand il en parle, c'est pas tant de la réussite technique, c'est pas tant de la lumière, du cadre, mais vraiment ce que la photo a de littéraire, c'est-à-dire une expression qu'il utilise ailleurs, c'est le texte que la photo laisse passer. Mm-hmm. Hein, ce que Roland Barthes appelait le punctum, c'est-à-dire ce qui à un moment donné me pointe, me touche et qui moi m'amène ailleurs, justement, que ce que la photo me dit.
Donc c'est un théoricien aussi de la littérature, Arnaud Genon, Hervé Guibert.
Hervé Guibert n'est pas un théoricien. Je pense qu'il était son livre sur la photo n'est pas un livre de théorie. C'est vraiment un livre qui participe finalement à son œuvre autobiographique. L'image fantôme, c'est une part de son autobiographie qu'il construit à travers le regard qu'il porte sur les images. Mais en même temps, quand il dit que ce n'est pas un livre sur la photographie, c'est pas vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que la photographie est l'instrument qu'il utilise pour parler de lui-même, pour revenir à lui. D'ailleurs, il y a des séquences dans ce livre où il parle de ses parents, où il parle de la relation qu'il a entretenue avec sa mère, où il parle de sa relation avec Isabelle Adjani. Il parle d'énormément de choses qui vont apparaître dans ses autres livres. Donc c'est vrai que c'est un regard très singulier, très subjectif sur la photographie. Et en ce sens, ce n'est absolument pas un livre de théoricien.
Alors il dit quand même qu'il a été très influencé par Barthes. Quand il a écrit ce livre, L'image fantôme, donc il est nourri tout de même au moins de théorie.
Oui, c'est-à-dire qu'il a été, il ne faut pas l'oublier, le premier critique de photographie dans le journal du Monde, hein, de 1977 à 1985. Donc il connaissait très bien la photographie. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça, me semble-t-il, en y réfléchissant, qu'il se considérait comme un amateur. Il a fréquenté les plus grands noms de la photographie, il a rencontré les plus grands photographes vivants de son époque. Et lui, qui a commencé à photographier relativement tôt et qui a fait des petites expositions, je pense qu'il ne voulait pas se considérer comme l'égal de ces personnes qu'il avait rencontrées, qu'il avait interviewées, dont il avait vu les expositions. Et en même temps, quand il se dit d'ailleurs amateur, ce qui est très intéressant, c'est qu'il rappelle dans un des articles qu'il écrit sur Kertész que Kertész se considérait lui-même aussi comme un amateur. Et donc finalement, en disant qu'il est un photographe
l'article
amateur...
L'article aussi, qu'il cite souvent et qui se considérait, je crois, aussi comme un amateur.
Tout à fait. Donc finalement, en disant ça, il se fait l'égal de Kertész. Enfin, en tout cas, il considère que Kertész a eu le même rapport à la photographie que qu'Hervé Guibert avait.
Et alors sur Barthes, il y a aussi la question de la photo et de la photo de la mère de Barthes, là pour le coup, pas de la mère
oui,
de Guibert évidemment.
Tout à fait, alors c'est vrai que les deux textes sont proches en ce sens-là qu'ils ont en leur centre les deux une photographie de la mère, donc pour Roland Barthes, donc c'est la photographie du jardin d'hiver de sa mère quand elle avait 5 ans. Pour Hervé Guibert, donc la photographie de sa mère qui n'a pas été prise. Et à l'intérieur de l'image fantôme, d'ailleurs, il y a une proposition, un texte qui s'appelle « La proposition », qu'Hervé Guibert avait fait à Roland Barthes, de le photographier avec sa mère, parce qu'il savait que sa mère était malade, et donc il voulait faire une photographie au plus près de la mort. Il a envoyé une lettre à Roland Barthes, il n'a jamais reçu de réponse, et il a appris que peu de temps après que Roland Barthes ait reçu la lettre, sa mère, la mère de Roland Barthes, est morte.
Dans l'écriture, je n'ai pas de frein, pas de scrupules, parce qu'il n'y a que moi pratiquement qui est mis en jeu. Les autres sont relégués en abstraction de personne, sous forme d'initiale. Tandis que dans la photo, il y a le corps des autres, des parents, des amis. Et j'ai toujours une petite appréhension. Ne suis-je pas en train de les trahir, en les transformant ainsi en objets de vision ? Cette question, heureusement, est vite chassée par une autre idée. Qu'en dévoilant ainsi à d'autres, à des corps étrangers, passants et peut-être indifférents, des corps familiers, des corps aimés, je ne fais qu'une chose, et c'est une chose énorme, je crois, c'est en tout cas tout le but de mon activité, de toute ma prétention créatrice, témoigner de mon amour. Instant love, you know. It is no selfishness. But for me, a bit for you. Do you understand how much I really care? Just for one night.
C'est un petit peu étrange. Ce qui était dit là dans le texte d'Hervé Guibert lu par Jean-Louis Trintignant, le seul visage, cette idée que au fond la littérature serait plus pudique que la photo chez Guibert, alors qu'on a un peu l'impression que c'est le contraire. Comment est-ce que vous comprenez cet extrait ?
Alors, ce qu'il dit, c'est vrai que dans les textes littéraires, les personnages sont masqués, en quelque sorte sont protégés.
Enfin, on les reconnaît quand même bien facilement.
On est d'accord. Mais en tout cas, ils ne se réduisent qu'à une initiale, qu'à un pseudonyme. Et il dit ainsi les protéger. Je suis d'accord avec vous que ce n'est pas le cas. Et qu'il avait d'ailleurs eu l'intention à un moment donné de sa vie d'écrire, à la fin de sa vie, d'écrire un texte dans lequel il parlerait de ses amis et dans lequel il leur tomberait dessus, je le cite, à bras raccourcis. C'est-à-dire, il était un moment où il venait d'apprendre sa séropositivité, il était malade, il était à la Villa Médicis, il n'était, bien sûr, on peut imaginer, très abattu par cette nouvelle, même s'il s'y attendait. Et finalement, il voulait écrire ce livre pour mettre à l'épreuve ses relations d'amitié. C'est ce qu'il disait, d'ailleurs, quand il écrivait. C'était une manière pour lui de voir jusqu'où ses amis pouvaient finalement le suivre dans l'aventure littéraire qui était la sienne.
Et sa famille aussi.
Et sa famille aussi. On voit d'ailleurs dans un texte comme Mes parents, dont vous avez parlé hier avec Bruno Blankmann, que c'est un texte qui est un peu plus dur quand même avec ses parents, hein, puisqu'il va jusqu'à faire mourir son propre père à la fin du texte, ce qui n'est pas rien. Donc oui, je pense que c'est une mise à l'épreuve de ces relations dans le texte, contrairement effectivement à ce qu'il dit, alors que dans les photos, finalement, ce sont des photos d'amour, oui, ce sont des photos souvent très tendres, qui sont prises dans des situations toujours très intimes, et qui sont l'image finalement de la complicité qu'Hervé Guibert entretenait avec les personnes qu'il photographiait.
Il y a la photo très célèbre de Foucault dans son appartement où il est en robe de chambre, par exemple.
Oui, oui, tout à fait, qui est, paraît-il, une des photos que Foucault préférait de lui-même. Oui, qui marque aussi justement la relation très très intime qu'il entretenait avec lui, de même que Agathe Gaillard lui dévoile ses seins, que Thierry se montre à lui nu, que Eugène Stavisskaya aussi, et que donc elles sont toujours en quelque sorte le résultat d'une complicité, d'une intimité très très forte.
Mais en même temps, il y avait un peu une peur dans l'entourage de Guibert, c'est Chéreau qui le raconte, de quel personnage allait-on devenir dans le prochain roman d'Hervé Guibert. Alors dans la photo, j'imagine qu'il y a un peu cette idée-là aussi, même si quand on est pris en photo, en général, on le sait. Enfin, en tout cas, à l'époque, on le savait.
Exactement.
Davantage.
C'est ça qui fait la différence, c'est qu'il y a autant il y a une relation de complicité dans la photographie. Il y a peut-être une exception, c'est la photo qu'il avait faite de Balthus. à son, alors que Balthus lui avait interdit de le photographier. Donc là, c'est une photo qui est véritablement une trahison. Mis à part celle-là, ces modèles sont toujours consentants, de même que lui, il a été le modèle consentant d'un autre photographe, Hans-Georg Berger, avec qui il a eu, justement, il a travaillé beaucoup toute sa vie, et il a été le sujet de deux livres de photographie, où lui-même se voyait d'ailleurs comme un personnage romanesque. Et la différence, c'est qu'effectivement, ils sont d'accord quand ils se font photographier. Dans les livres, ils ne le savent pas et ils deviennent, à leur corps défendant, des personnages.
Il y a un dernier motif qu'on repère bien quand même, je crois, dans les reproductions que vous avez choisies pour les mettre dans votre essai, c'est la table de travail. Ça veut dire quelque chose pour vous de photographier sa machine à écrire, ses papiers? Il y a aussi des lettres qui sont photographiées, des négatifs.
Oui, sur les tables de travail, je pense que j'en avoir parlé avec Agathe Gaillard, qui m'avait dit, si mes souvenirs sont bons, que c'était un des motifs qui revenait le plus dans son travail. C'est assez impressionnant. Alors moi, je pense que les tables de travail, justement, ce sont ce que j'avais appelé, dans mon premier essai, des autoportraits en creux. C'est-à-dire qu'en même temps, elles sont le signe de la disparition de l'auteur et elles laissent toujours la trace indicielle de l'écriture, c'est-à-dire de ce qu'est Guibert était, un écrivain qui plus est, qui s'écrivait lui-même. Donc c'est en même temps l'absence du photographe et la présence de l'écrivain dans le mouvement de l'écriture, dans le mouvement de l'écriture sur soi en plus.
Ça nous emmène peut-être vers la postmodernité, ce que nous allons voir en seconde partie de cette émission, juste après, en compagnie des revues.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
En compagnie des revues, avec vous aujourd'hui Alexis Broca du Nouveau Magazine Littéraire. Bonjour Alexis.
Bonjour Mathieu, bonjour
Arnaud. Le Nouveau Magazine Littéraire dont le dossier est consacré ce mois-ci à Alexandre Solzhenitsyn.
Voilà, c'est le centenaire de Solzhenitsyn et donc nous consacrons notre dossier à cette figure à la fois intimidante et passionnante, en nous intéressant à son destin qui fait aujourd'hui partie de l'histoire et puis surtout en revenant au texte, parce que vous le savez Mathieu, c'est le problème avec ces écrivains qui deviennent des icônes ou des symboles, on tend à oublier de les lire. C'est pourquoi Alain Dreyfus, qui a coordonné le dossier, a demandé à Georges Niva, qui est un spécialiste de la Russie et un grand traducteur de Solzhenitsyn, eh bien de commencer ce dossier par un texte sur la prose de Solzhenitsyn. Et c'est assez intéressant parce que Niva, vous savez que Solzhenitsyn est connu pour ses œuvres monumentales, et Niva lui trouve un génie du format court. Et en effet, lorsqu'on regarde de près le mémoire L'archipel du goulag ou le roman La roue rouge, on voit qu'ils sont truffés d'aperçus littéraires, de petits tableaux qui sont si bien écrits qu'ils confinent parfois à la poésie en prose. Et d'ailleurs, Solzhenitsyn a bien écrit des miniatures qui sont des aperçus souvent sur la splendeur de la nature russe. Je pense notamment au clocher de Kalyadzin qui a été réédité il n'y a pas très longtemps par Point. Mais ces moments de grâce stylistique sont aussi souvent des moments de politique puisque cela parle de la beauté des paysages russes, mais de la beauté souillé des paysages russes. Cela parle de la beauté de la langue russe, mais de la beauté encalminée de la langue russe. Voilà, on définit aussi l'écriture de Solzhenitsyn comme réaliste. Et c'est assez intéressant la façon dont Niva, lui, considère cette écriture. Il y trouve une sorte de poétique du surréel, une sorte d'hallucination du réel, où le regard joue un rôle capital avec des duels de regards croisés entre couard et valeureux, impuissant et chanceux. Et là, sans doute, on retrouve le regard du zec, le regard du prisonnier. Lorsque vous êtes au goulag, un pas de travers peut vous valoir la mort et une pomme de terre congelée peut vous valoir la survie. Et lorsque vous regardez le réel de cette façon, forcément, vous écrivez pas comme tout le monde.
Alors, vous vous intéressez aussi dans ce dossier à l'exilé encombrant, pourrait-on dire, qu'a été Solzhenitsyn.
Oui, parce que cet exilé encombrant a laissé de nombreux souvenirs en France. Et c'est assez intéressant de revenir aujourd'hui vers cette époque et vers la réception de Solzhenitsyn, notamment la stratégie choisie par le Parti communiste français pour traiter ce qui était pour lui un sacré problème. C'était une stratégie d'ailleurs qui était calquée sur le discours soviétique. Le Parti communiste français disait « Solzhenitsyn ne ment pas, ce n'est pas un faussaire ». Mais ce qu'il dit nuit à notre cause, c'est donc un traître à la cause. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est la réaction de la gauche plus modérée, qui était
Mitterrand, par exemple.
Voilà, pas très enthousiaste. Alors, Mitterrand a un remarquable exemple de casuistique mitterrandienne. Le plus important n'est pas ce que Solzhenitsyn dit, mais qu'il puisse le dire. Ah. Et si ce qu'il dit nuit au communisme, le fait qu'il puisse le dire le sert davantage. Voilà. Et puis, ce malaise de la gauche culminera dans un numéro d'Apostrophe très célèbre de 75, où Jean Daniel reprochait à Solzhenitsyn de ne pas dénoncer ce qui se passait notamment au Chili.
Ouais. Alors, vous parlez aussi avec le grand traducteur, enfin, ou l'un des traducteurs.
C'est de l'archipel du Goulag.
Ouais, qui s'appelle donc Yves Amand. Que vous a-t-il dit?
Alors, Yves Amand, c'est passionnant. Bah, Yves Amand, déjà, nous replace tout de suite sur le terrain littéraire en nous rappelant que Solzhenitsyn est un grand écrivain avant d'être une personnalité politique. Et surtout, il déconstruit la vision qu'on peut avoir en Occident de Solzhenitsyn comme prophète réactionnaire qui avait des mots aussi durs pour l'URSS que pour les États-Unis. En fait, nous explique Amand, Solzhenitsyn est d'abord un écrivain, il a été ce qu'il voulait être, et son grand sujet, c'est la Russie, la tragédie russe, sa douleur pour la Russie. Et lorsqu'il parle de la lâcheté de l'Amérique, d'ailleurs, il parle en quelque sorte en creux de la Russie. Voilà, et puis on a un grand article de Françoise Lesourd sur La Roue Rouge. La Roue Rouge, c'est ce roman de 6000 pages où Solzhenitsyn tente d'en venir aux racines de la Révolution et de l'expliquer intégralement. Alors c'est un échec, mais un échec de génie, comme je crois que c'est Niva qui dit ça. On a un article de Véronique Adorman sur ce que pense la Russie actuelle de Solzhenitsyn, à savoir un auteur classique mais difficile. Et on termine en fait par des articles de Georges Niva et d'Alain Dreyfus sur le récit de Goulag, qui est devenu par la force des choses et des baïonnettes un genre littéraire en Russie. On parle du grand Varlam Chalamov qui écrivit les récits de la Kolyma qui sont édités chez Verdier. Ce sont des courtes nouvelles écrites dans un style remarquablement sobre. Ce sont là aussi des miniatures, des aperçus sur le Goulag. Et d'ailleurs, Solzhenitsyn avait demandé à Chalamov de collaborer à l'archipel du Goulag, de collecter des faits pour lui. Bon, Chalamov avait refusé. Et puis on découvre des auteurs que je ne connaissais pas, comme Julius Margolin, auteur de Voyage au pays des Èques. On se rappelle d'Evgenia Gainsbourg qui a écrit Le ciel de la Kolyma. Et puis on parle d'un glorieux prédécesseur, Anton Tchekhov. Tchekhov n'a pas été emprisonné. Mais
il était quand même dans les camps visités.
Voilà, exactement. Il avait négligé sa médecine, disait-il, et donc il voulait se rattraper un peu. Donc il est parti 3 mois sur l'île de Sakhaline. Il en a tiré un livre du même nom, et un livre assez étonnant, parce qu'on retrouve des pratiques qui ont été perpétuées par l'administration soviétique, qui a par ailleurs aussi beaucoup sophistiqué les choses dans l'horreur. Bref, du vieux monde faisant table rase, mais gardons ces prisons, elles peuvent toujours servir.
Et bien voilà qui donne envie de lire votre dossier. Nous aussi, on en parlera à la compagnie des auteurs de Solzhenitsyn. Ce sera en janvier prochain seulement, une manière de prolonger la célébration 2018. Idée. Merci Alexis Broca, à très bientôt. Prie, c'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture au 3e jour de notre série consacrée à l'écrivain et photographe Hervé Guibert. Le photographe, nous en avons parlé en première partie de cette émission avec Arnaud Genon qui reste notre invité. Il est auteur notamment de l'essai Hervé Guibert vers une esthétique postmoderne dont nous allons parler à présent.
Je confirmais cette nuit-là moi-même que j'étais un phénomène du destin. Pourquoi était-ce moi qui avais chopé le sida et pourquoi était-ce Bill, mon ami Bill, qui allait être un des premiers au monde à détenir la clé capable d'effacer mon cauchemar? Pourquoi ce type était-il venu s'asseoir en face de moi au Drugstore Saint-Germain où je dînais seul ce soir d'automne 1973, il y a plus de 15 ans, quand j'en avais 18? Et lui, quel âge pouvait-il avoir à cette époque? 30, 35? L'âge que j'ai aujourd'hui. J'étais terriblement seul. Et lui, il était sans doute autant que moi, sinon plus. Sans doute aussi seul et démuni face à un jeune homme que je le suis aujourd'hui. Mais ce Bill n'était-il pas, davantage que moi, un de ces monstres absolus du sort, qu'ils semblent tordre et sculpter à leur guise? J'avais une confiance absolue en Bill, même si, par la promesse de ce vaccin providentiel, je craignais de voir bouleverser par un nouveau pacte avec le sort cet état progressif, plutôt plaisant en définitive, de mort inéluctable qui me guettait. Car, c'est vrai, je découvrais quelque chose de suave et d'ébloui dans son atrocité. C'était certes une maladie inexorable, mais elle n'était pas foudroyante. C'était une maladie à palier. Un très long escalier qui menait assurément à la mort, mais dont chaque marche représentait un apprentissage sans pareil. C'était la maladie qui donnait le temps de mourir et qui donnait à la mort le temps de vivre, le temps de découvrir le temps et de découvrir enfin la vie. C'était en quelque sorte une géniale invention moderne.
Extrait d'Alami qui ne m'a pas sauvé la vie, lu par Guillaume Gallienne. Alors Arnaud Genon, le sida comme une géniale invention moderne, écrit Hervé Guibert. Mais vous allez même plus loin, puisque vous situez Hervé Guibert sur la route qui conduit à la postmodernité. Alors si vous voulez, vous pouvez nous dire un mot sur le texte qu'on vient d'entendre, mais surtout j'aimerais qu'on creuse avec vous cette notion de postmodernité chez Hervé Guibert.
Alors quand il parle effectivement d'invention moderne, c'est vrai que c'est finalement à partir du moment où Hervé Guibert se sait malade du sida, à partir du moment où il l'écrit, donc avec « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie », qu'il écrit aussi la première autofiction. Tous ces textes avant ne sont pas des autofictions au sens étroit du terme. Il écrit l'incognito, le texte qu'il écrit juste avant, c'est un roman autobiographique puisque le narrateur s'appelle Hector Lenoir et n'est pas Hervé Guibert. Fou de Vincent, c'est un journal à l'envers. Journal avec deux enfants, c'est aussi un texte qui emprunte la forme du journal et qui lui donne finalement une portée fictionnelle.
Mes parents aussi. Donc
mes parents, c'est extrait entièrement du journal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où Hervé Guibert va s'écrire et va écrire la maladie, il va emprunter justement ce genre qui est l'autofiction, qui est, selon des théoriciens, finalement une autobiographie postmoderne. C'est-à-dire c'est une autobiographie qui est consciente de son impossibilité. Et Hervé Guibert, quand il se sait malade, il comprend finalement que le seul moyen qu'il a pour raconter ce qui lui arrive, c'est-à-dire cette déchéance dont il parle dans l'extrait, là, cette confrontation à une mort qu'il sait inéluctable, il va pouvoir le faire par le biais de la fiction. C'est-à-dire qu'il est en même temps le personnage principal de son texte, il raconte sa vie, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans le mensonge, mais il va utiliser les procédés romanesques pour justement faire de lui un personnage et pour justement donner au récit de sa mort une portée fictionnelle. La première phrase de « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie », c'est « J'ai eu le sida pendant 3 mois ». Cette phrase n'a pas de sens en 1989 quand il écrit le texte, c'est-à-dire qu'il sous-entend qu'il ne l'a plus. Et donc il instaure dès le début...
Parce qu'il a cru que cet ami, précisément, allait lui sauver la vie, ce qui n'est pas arrivé.
Tout à fait. Mais il instaure dès le début, finalement, une sorte de suspense dans son texte, alors qu'il sait très bien qu'il n'y en a pas. Et l'extrait qui vient d'être lu, il parle de mort inéluctable. Donc dans la création de ce suspense, dans la création de cette tension justement fictionnelle, alors même qu'il est en train de se raconter, il y a justement un des enjeux de l'esthétique postmoderne.
Alors justement, est-ce qu'on peut redéfinir un petit peu cette notion extrêmement évanescente qu'est la postmodernité appliquée au cas d'Hervé Guibert ?
Alors j'ai pas fait de lui un écrivain postmoderne, ce qu'il n'est pas. En tout cas, ce que j'ai dit, c'est qu'il y avait dans ses livres des éléments qui participent d'une esthétique postmoderne. Alors, par exemple, le retour du sujet, c'est-à-dire que pendant jusque au milieu des années 70, on avait théorisé la mort de l'auteur. Roland Barthes avait parlé de la mort de l'auteur, Michel Foucault, donc deux personnes qui a bien connu Hervé Guibert. Et à la fin des années 70, au début des années 80, tous ces écrivains qui s'étaient revendiqués de la mort de l'auteur ont commencé à dire qu'ils n'avaient jamais fait autre chose que parler d'eux-mêmes, comme Rob Grillet par exemple. Et Hervé Guibert, lui, justement, commence à écrire à cette époque-là, avec en se prenant lui-même comme le sujet central de ce texte, mais l'auteur qu'il fait ressurgir n'est pas l'auteur autobiographique tel qu'il existait chez Rousseau ou au XIXe siècle. C'est-à-dire c'est un sujet, un auteur qui est toujours qui est davantage dans une quête que dans l'idée qu'il pourrait se trouver. L'autobiographe du XIXe siècle, il cherche à se trouver, à trouver une identité stable. Ce que va faire Hervé Guibert dans toute son œuvre, c'est justement déstabiliser sa propre identité. Et le sida et va finalement rendre possible cette recherche parce que, comme il le dit dans le texte, il va traverser différents âges en très peu de temps. Il est à 35 ans, il dit, plus vieux que son père. Mmh. Il se compare à sa grand-tante Suzanne qui a 90 ans. Et à la fin de la minute qui ne m'a pas sauvé la vie, la dernière phrase, je crois, c'est « j'ai retrouvé mes bras d'enfant ». Donc finalement, la maladie, alors même qu'il cherche à s'écrire, l'empêche finalement de trouver à ce sujet une sorte de stabilité, de se trouver tel que pouvait le faire l'autobiographe du XIXe siècle.
Donc vous nous expliquez aussi que Hervé Guibert est en résonance très forte avec son époque, qu'il est traversé par son époque, cette époque que Gilles Lipovetsky a appelée l'ère du vide, et en cela il est postmoderne et il annonce beaucoup de ce qui se passe aujourd'hui, à la fois en littérature et puis même de manière plus général, dans le rapport des êtres humains avec leur environnement.
Oui, alors c'est vrai que ce retour justement au sujet, alors quand il est question de l'ère du vide, c'est plutôt une critique qui est faite vis-à-vis de cette période. Ce qui est intéressant, c'est qu'Hervé Guibert, en même temps qu'il parle de lui, il y a toujours des tensions chez lui entre justement le retour au sujet et puis l'idée que le sujet ne peut pas se dire de manière stable, ne peut pas se dire totalement, qu'il est obligé d'en passer par la fiction. En même temps qu'il parle de lui, il fait toujours appel à l'autre. Et il y a une très forte place justement qui est laissée à l'intertextualité dans ses textes, c'est-à-dire qu'il convoque des auteurs qu'il admire, mais ce ne
comme
sont
par exemple
Thomas Bernhard dans À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, mais contrairement à ce qui se passait à l'époque classique, ce ne sont pas des exercices d'admiration où justement on sollicitait les anciens pour montrer à quel point on les admirait. Avec Guibert, il les sollicite, mais pour montrer finalement qu'il vaut aussi bien qu'eux et qu'il peut-être même les dépasse. C'est ce qu'il dit avec Thomas Bernhard. Hein. Il dit qu'il est atteint parfois de fièvre imitative, qu'il y a dans sa phrase finalement la phrase de Thomas Bernhard qui vient s'immiscer. Donc déjà c'est intéressant, comment dire « je », comment se dire quand on emprunte le style de l'autre. Donc c'est la question de l'altérité à l'intérieur même de l'autobiographie. Et finalement cette fièvre imitative qui vient se faire l'égal du sida qui vient coloniser son corps, de même que le style de Thomas Bernhard vient coloniser sa propre écriture.
Donc il n'est pas en révérence par rapport aux auteurs du passé, même si on sent énormément de lectures de ces auteurs-là chez Guibert, et on sent qu'il est vraiment l'héritier d'une tradition quand même de l'écriture française.
Oui, il est l'héritier d'une tradition, mais il y a toujours, comme avec ses parents, comme avec les personnages qu'il fait intervenir dans ses textes, une sorte d'irrévérence, oui, il joue avec eux aussi dans un roman peut-être moins connu, qui n'est pas un texte autobiographique, qui est Les Lubies d'Arthur, qui est un roman d'aventure, où là il va convoquer littéralement toute la bibliothèque du jeune Hervé Guibert qu'il a été, Arthur Gordon Pym, tous les romans d'aventure qu'il a lus enfant et qu'il convoque ici et qu'il parodie finalement, qu'il vient à travestir, à qui il fait dire autre chose que ce qu'il lise dans ces textes-là. Donc il va jouer, c'est-à-dire qu'il y a un espace ludique justement dans ses références qui est aussi un des traits de cette esthétique postmoderne.
Sur un écran géant.
compagnie des auteurs. Nous parlons d'Hervé Guibert avec vous, Arnaud Genon. On n'a pas vraiment évoqué votre rapport personnel avec Hervé Guibert. C'est peut-être le moment de le faire. Comment est-ce que vous vous êtes intéressé à cet écrivain-là? Comment vous l'avez suivi? Qu'est-ce qu'il a provoqué en vous?
Alors, c'est une histoire un peu personnelle qui correspond avec un événement de ma vie que je vais raconter dans un livre qui va paraître, qui s'appellera « Mes écrivains », dans lequel je consacre un petit chapitre à Hervé Guibert. Et donc, ça a correspondu finalement à la mort de ma mère. J'ai perdu ma mère quand j'avais 14 ans. Et j'ai connu Guibert à peu près à la même époque, qui était en train de raconter la sienne. Et donc, il a été en quelque sorte une sorte de catalyseur. Et à travers la lecture de ses textes, j'ai essayé d'imaginer ce que pouvait être le fait de mourir. Et ça a été finalement, grâce à Hervé Guibert, une manière aussi de comprendre le cheminement d'une personne qui est en train de mourir quand Hervé Guibert racontait sa propre mort. Donc c'est quelque chose qui... C'est une rencontre un peu fortuite, puisque je l'ai vraiment connu alors même qu'il venait de mourir, c'est-à-dire que je n'avais pas lu Hervé Guibert avant d'apprendre qu'il était mort.
Et lui, précisément, on a parlé de photos dans la première partie de cette émission, il met pas mal en scène sa propre mort par l'image. On sait qu'il la met en scène évidemment par l'écriture, mais par l'image aussi. Il va filmer d'abord sa propre mort dans La pudeur et l'impudeur. Et puis il y a des photos aussi où on le voit couché sur une table de pierre dans la nature. Et c'est une évocation très limpide, je crois, de sa propre mort, Arnaud Genon.
Oui, La pudeur ou l'impudeur, qui est le dernier projet finalement qu'il a à peine eu le temps de voir terminé, dans lequel il décide de mettre en scène et de filmer donc les derniers mois de sa vie, hein, puisqu'il filme ça, je pense, de février à juillet, pendant 5-6 mois, l'année de sa mort. Et il va, avec un caméscope qui lui avait été prêté par la réalisatrice Pascale Brugnot, filmer finalement les grandes étapes de sa vie, ou les étapes quotidiennes plutôt de sa vie, qui vont de la venue du masseur qui vient le soigner chez lui, un voyage sur l'île d'Elbe avec Christine et Thierry, ses journées à l'hôpital, ses prises de sang qu'il filme. Et justement, il vient en quelque sorte, alors il disait que c'était une manière pour lui de se distancier avec ce qu'il était en train de vivre, et il n'acceptait plus la photographie parce qu'il disait que justement la photographie c'était la mort finalement, c'était une manière, on figeait le moment, c'était la création de lui d'une image posthume. Or l'image en mouvement, il trouvait que justement il pouvait échapper à cette image prémortuaire en quelque sorte, même si dans ce film il en vient à filmer une tentative de suicide qui est assez d'ailleurs troublante. Il raconte dans le mausolée des amants, donc il a...
Au journal posthume.
Oui, qu'il a mis un leurre sur un des deux verres dans lequel il verse de la digitaline, qui était le poison, ou il appelait ça le contre-poison du virus du sida. Et donc il fait tourner deux verres comme ça autour de lui, il en boit un, et il attend quelques heures, et ensuite on le voit revenir à lui, il dit, voilà, filmer ma propre mort m'a permis en quelque sorte de l'exorciser. C'est d'autant plus troublant que l'on sait qu'il s'est suicidé avec ce même poison quelques mois plus tard, et qu'il est mort donc des suites de cette tentative de suicide.
Alors, il y a l'image en mouvement qui rappelle du coup la vie, vous le disiez à l'instant, il y a aussi la couleur, parce que les photos, elles sont en noir et blanc quasiment toujours.
C'est vrai. Donc il disait que le noir et blanc dans la photo, c'était... qui lui permettait finalement de donner à ce qu'il photographiait une sorte d'irréalité. Et la couleur, il l'a réservée au cinéma. Il a d'ailleurs écrit le scénario d'un film qu'il n'a jamais tourné, qui s'appelait La Liste Noire, un film qui avait été écrit pour Isabelle Adjani. Et dans la note d'intention qu'il avait écrite, il disait que justement il voulait que ce film soit en couleur, parce que l'image en mouvement, pour lui, devait être en couleur, alors que la photographie devait être en noir et blanc.
Film évoqué aussi dans Un ami qui ne m'a pas sauvé la vie. Merci beaucoup Arnaud Genon. Pour aller plus loin, je conseille donc l'ouvrage que vous avez écrit avec Jean-Pierre Boulet intitulé Hervé Guibert, l'écriture photographique ou le miroir de soi. Il est paru aux presses universitaires de Lyon en 2016. Je signale votre premier roman aussi, Tu vivras toujours, publié aux éditions Rémanence. C'était en 2007, consacré justement à la disparition de votre mère, est toujours disponible. C'était la compagnie des auteurs, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Laurence Millet, Laurence Genepin, Stéphanie Vélin, Jean-Guilain Mège. Demain, une émission chorale pour évoquer Guibert avec les écrivains Mathieu Simonet, Bénédicte Haim et puis aussi Éric Marty qui sera là, ainsi que la photographe, la critique photographique Brigitte Ollier. Tout de suite, Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour à tous. Léon Gontran Damas, on a fait connaissance de l'homme révolté, mais il a, savez-vous, un certain savoir-vivre. On ne baille pas chez moi comme ils baillent chez eux, avec la main sur la bouche. Je veux bailler sans tralala, le corps recroquevillé dans les parfums qui tourmentent la vie que je me suis faite, de leurs museaux de chiens d'hiver, de leur soleil qui ne pourrait pas même tiédir l'eau de coco qui faisait glou-glou dans mon ventre au réveil. Laissez-moi bâiller la main là sur le cœur, à l'obsession de tout ce à quoi j'ai en un jour un seul tourné le dos. Il écrit dans son époque, après-guerre, et contre les canons. Oui, pour la paix, enfin contre l'économie de guerre, les ventes d'armes, sujet délicat comme ces petites douceurs qu'on partage entre gens du monde, veillant à l'ordre du jour pour reprendre le titre d'Éric Vuillard. Des billes pour la roulette, rien que pour le fonctionnement d'usines à canon, obus, balles, la guerre, elle va bientôt venir s'enivrer encore à la Marseillaise de chair fumante. Et chaque creusot travaillera des nuits, des fours à blocs, et tous les Schneider s'empliront les poches de billes pour la roulette, grâce au fonctionnement nouveau d'usine à canon, obus, balles. Venue la guerre s'enivrer encore à la Marseillaise de chair fumante. Et pour danser par-delà les mots, le jazz part, il est des nuits sans nom, il est des nuits sans lune, où jusqu'à l'asphyxie moite me prend l'âcre odeur de sang, jaillissant de toute trompette bouchée. Des nuits sans nom, des nuits sans lune, la peine qui m'habite m'oppresse, la peine qui m'habite m'étouffe. Nuit sans nom, nuit sans lune, où j'aurais voulu pouvoir ne plus douter, tant m'obsède d'écœurement un besoin d'évasion. Sans nom, sans lune, sans lune, sans nom, nuit sans lune, sans nom, sans nom, où le dégoût s'ancre en moi aussi profondément qu'un beau poignard malais. Et puis, dernière page de névralgie, tant de vie. Il n'est plus bel hommage à tout ce passé à la fois simple et composé que la tendresse, l'infinie tendresse qui entend lui survivre. Si t'aimant un, un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre. Citation. Poète de la spontanéité, Damas n'en procède pas moins une réécriture de ses textes, puisque la poésie est vie et que la vie est mouvement. Le vocable, le phrasé ou encore la composition des strophes correspondent aux temps successifs d'une existence décorchée vif, des structures à la simplicité toute relative.
Merci Jacques Bonafé, vous nous lisiez aujourd'hui des textes de Léon Gontran Damas.